On va lire une petite portion de 1 Corinthiens 2. 2 Corinthiens. Voyons, je suis tout mêlé. 2 Corinthiens 2. C'est ça que j'ai dit en partant?
Oui. Oui.
OK. J'ai une petite tendance des fois à me mêler. Quand on parle de 1 Corinthiens 2, 2 Corinthiens 1, 1 Timothée, je deviens tout mêlé. Je crois que j'ai dit configurer des connexions qui sont trop proches, des fois les fils se touchent. Mais d'habitude, je m'en sors. On lit les versets 14. Vous connaissez sûrement ce passage. C'est surtout le premier verset sur lequel je vais attirer notre attention, mais pour se placer un peu plus dans le contexte, j'aimerais qu'on lise à la fin du chapitre. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand pour nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » Oui, Seigneur, c'est devant toi qu'on se tient et qu'on veut maintenant s'arrêter pour être enseigné de toi-même. C'est toi qui nous a donné l'onction qui nous enseigne toutes choses. On te loue, Seigneur, de ce que tu es un Dieu personnel. Un Dieu qui appelle les pécheurs à toi, ceux qui sont encore en dehors de Jésus-Christ, qui n'ont pas été encore rachetés par son sang. On te prie, s'il y en a qui sont dans cette situation aujourd'hui, que tu les convainques de péché, de justice et de jugement. Qu'ils voient la croix, qu'ils voient le sacrifice parfait accompli. Et qu'ils voient que tu n'es pas mort, mais tu as vaincu la mort et que tu es vivant pour sauver quiconque s'approche de toi par la foi. Et nous qui sommes tes enfants ce matin, ah Seigneur, on veut que tu illumines les yeux de notre cœur pour qu'on voit à quel point on a un grand salut. À quel point tu es un Dieu qui a tout pourvu pleinement, dans lequel nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur. Seigneur, on s'en remet à toi parce que c'est toi qui, présent parmi nous, est celui qui vraiment est le plus important, celui qui fait la vraie différence. Puisses-tu, Seigneur, accomplir ta volonté au nom de Jésus. Amen.
Amen.
En cette belle journée de la résurrection, et on peut le dire de toutes sortes de façons, figurativement, mais même on regarde dehors, il fait tellement beau. Ce beau dimanche de Pâques, j'aimerais prendre ce texte pour d'abord tirer l'expression duquel je tire mon titre, le triomphe de la vie. Le triomphe de la vie et, vous savez, Pâques, il y a une double bénédiction à Pâques, parce que là aujourd'hui, on est comme à la fin de cette célébration, mais ça commence aussi, on se rappelle la croix. Hein? La première bénédiction qu'on se rappelle dans le temps de Pâques, c'est cette croix. Cette croix qui triomphe du mal, du péché, de la mort, de tous les ennemis. La croix, c'est le triomphe de l'amour de Dieu et de sa justice qui ont été réconciliés, la colère de Dieu qui est tombée sur le Fils afin que nous puissions être pardonnés. Mais la résurrection aussi, évidemment, fait partie de cette bénédiction de Pâques. C'est la deuxième bénédiction, la résurrection de Jésus-Christ. Le triomphe même de la vie dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance. La mort ne pouvait pas retenir Jésus de ses liens. Et c'est pour ça que ce dimanche est si spécial, parce qu'on souligne ce triomphe de la vie par la résurrection de notre Seigneur d'entre les morts. Et je veux prendre le temps de regarder cette grande vérité du triomphe de la vie, mais avec, je dirais, un angle bien différent ce matin. On ne va pas aller dans les évangiles voir Jésus après la résurrection, qu'est-ce qu'il a dit et tout ça. Non, le Seigneur m'a dirigé ce matin pour cette célébration de cette journée unique et spéciale, ce jour glorieux. Il m'a dirigé vers le livre le plus ancien de la Bible, celui qui porte en son sein même l'espérance de la résurrection. Et si je vous le dis, c'est même dans le Messie d'Handel, c'est chanté pour ceux qui connaissent cette œuvre. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera après que ma peau aura été détruite. Moi-même, je contemplerai Dieu. Amen. Quel est ce livre?
Job.
C'est le livre de Job. Et je vous ai cité le cœur de ce livre, c'est l'espérance que Job avait qu'un jour il allait voir Dieu. Job, le plus grand trouble qu'il avait dans son cœur, c'était pas ses amis qui donnaient tant de problèmes, puis ça faisait partie pas mal de ses problèmes, c'était même pas même non plus le fait qu'il avait tout perdu puis tout ça, c'était que Dieu semblait silencieux, distant et qu'il était pas là. Il dit « J'aimerais qu'il m'entende », puis même il dit « J'aimerais que mes paroles soient écrites dans un livre ». Hey Job, sais-tu quoi? Ta prière a été répondue. Puis on est content parce qu'on peut le lire. Mais c'est ça, Job soupirait après le Rédempteur, après l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et ce sur quoi je veux attirer notre attention ce matin, c'est à la toute fin du livre. Et vous savez comment le livre termine? Dieu se révèle à Job et ses amis, mais spécialement à Job, au milieu d'une tempête. Et il y a quelque chose de spécial que je veux juste retenir votre attention en commençant, en introduction. Lorsque Job a la révélation de Dieu lui-même du sein de la tempête, il y a quelque chose de vraiment unique que j'aimerais que vous reteniez ici, qui nous montre la nature de notre Dieu. Pendant tout le livre de Job, Job et ses amis, vous regarderez, vous le ferez l'étude par vous-même, mais les noms qui sont utilisés pour Dieu, c'est le Très-Haut, le Tout-Puissant, Dieu. Des noms qui peuvent être plutôt saisissants. Mais comment Dieu lui-même se présente du sein de la tempête, il se présente comme l'Éternel, le Je suis. C'est son nom spécial, le Dieu de l'Alliance, qui dit à Job, tu t'es senti peut-être tout seul, tout ce temps-là, mais me voici. Oui, du sein de la tempête, je suis terrible, je suis le grand Dieu, mais je suis le Dieu de tes pères, je suis le Dieu fidèle à l'Alliance. Et quelle espérance a dû avoir Job. Oui, voyez Dieu, comment il était terrible et élevé. Il s'en est repenti de comment il a pu parler. Tout ça, on le voit à la fin du livre. Mais Dieu s'est présenté comme celui qui n'avait pas abandonné ses promesses, qui n'avait pas abandonné son serviteur et qui était toujours là, même si pendant un temps, il a paru si loin. Mais encore, ce que je veux qu'on remarque ce matin, c'est que à la toute fin, après que Dieu ait parlé, puis vous savez, il posait des questions... On pourrait dire des questions sans réponse. Pas des questions parce que Dieu voulait avoir de l'information quand il demandait « T'étais où Job quand j'ai fait la terre? » C'est pas parce que Dieu se demandait « Il était où Job quand j'ai fait la terre? » C'était pour remettre Job à sa place. « Job, t'étais pas là quand j'ai fait la terre. T'es une créature, je suis le créateur. » C'était ça l'idée, là? Fait qu'une fois que Dieu a tout exposé ça à son serviteur Job, Job se repent. Et là, avant que Dieu le restaure, on lit un petit bout de verset qui nous dit dans 42, verset 10, « Après que Job eut prié pour ses amis, Dieu le restaura dans toutes ses choses. » Ok? C'est là-dessus que je veux qu'on s'arrête ce matin. Je dis, ouais, c'est quoi le rapport? Ben, parce que c'est le triomphe de la vie. Vous allez voir pourquoi, je vais vous l'expliquer dans le message, mais je veux qu'on considère en cette journée de la résurrection le triomphe de la vie à travers cet incident qui arrive, qui je pense qui est très significatif et pour nous ce matin, qu'on voit que cette vie que Dieu a, cette vie abondante, cette vie satisfaisante, cette vie restaurée, cette vie qui nous vient de notre Rédempteur, doit passer par un point crucial. Et c'est celui qui est arrivé, ce point crucial-là, dans la vie de Job, dans le verset que je vous ai cité, à la toute fin du livre. Et avant que Dieu restaure Job physiquement, Dieu l'a appelé d'abord à le restaurer spirituellement. Et c'est ça que je veux qu'on regarde. Dieu a dit, prie pour tes amis. Puis, juste pour être sûr qu'il savait c'était qui, là, il a nommé les trois plus tannants de la gang. Pas le petit dernier qui a parlé, Élieu, André, mais ok, les trois premiers, là, puis là, il a dit, vous êtes des consolateurs fâcheux. Ceux qui, vraiment, pour Job, étaient vraiment un défi, mettons. Hey, des gens, des fois, qui sont plus durs à aimer, êtes-vous d'accord avec moi? Des fois, c'est plus dur, des fois, c'est pas, ok, dans notre nature pécheresse. Mais Dieu demande de prier pour ses amis. qui l'ont profondément blessé par leurs paroles, par leur attitude mesquine, condescendante et persistante. On va dire, nous, on lit ça, là, puis ça dure plusieurs chapitres. Imaginez-vous passer à travers ça dans la vraie vie, là. On ne sait pas exactement la durée de ce que ça a duré, mais c'est... ça ne devait pas être un cadeau, comme on dit au Québec. Mais j'y vois un joyau des Écritures. On peut voir que Dieu, le Saint-Esprit, le baume de Galaad, connaissez cette expression dans Jérémie? Y a-t-il un baume en Galaad? Vous savez, un baume, ça guérit les plaies. C'est ce qui va amener, là où il y a de la douleur, il y a de la blessure, c'est la guérison divine. Lui, le consolateur, est venu pour consoler Job. Et le même Dieu, le même Saint-Esprit, vient aussi dans nos vies pour guérir nos blessures. Parce qu'on a toutes sortes de blessures. Et vous savez, il y a un pattern, des gens blessés blessent d'autres. Et on a des blessures relationnelles, on a des blessures dans nos cœurs, des blessures émotionnelles, toutes sortes de blessures. Et mes amis, tant que ces blessures-là, on ne les amène pas à celui qui guérit, à celui qui a porté nos... hein, on l'a vu dans Ésaïe 53, tant qu'on ne les amène pas à Dieu, on reste avec, puis ils nous détruisent à petit feu. Pourtant, c'est si simple, juste d'aller à lui. C'est ça que Dieu a demandé à Job. Viens à moi, prie pour eux autres. C'était pas juste, OK, dis une prière, dis une petite prière. Non, non. Dieu demandait à Job, viens à moi avec ça. Viens me voir, on va parler de ça, ce qui t'a tellement fait mal dans le plus profond de ton cœur. Il y a quelque chose qui se passait là, mes amis. Là. Nous, on peut lire ça vite, quand il a prié pour ses amis. Non, non, attends un peu, là. Dieu le restaurait spirituellement. Et il voulait restaurer la plénitude de sa rédemption, de sa vie dans le cœur et l'âme de Job. On sait que Jésus est venu pour donner la vie, pour que ses brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Et évidemment, Jésus ne parlait pas... des fois, les gens vont prendre ça. « Ah, ça veut dire que Dieu veut que tu aies une Rolls Royce, puis une grosse maison, puis un compte en banque qui déborde. » Jésus, c'est pas de ça qu'il parlait. Il parlait de la vie spirituelle, la vie qui satisfait. Vous savez que le monde court après toutes sortes d'affaires dans la vie? C'est parce que c'est ça qui leur manque, la vraie vie. La vie qui vient de Dieu, celle dont l'origine est divine, n'est pas humaine. Et Dieu nous appelle, si vous voulez, il nous rappelle à lui, simplement en allant à lui comme ça. Viens à moi. En confessant ce qui nous fait mal, ce qui nous gruge, ce qui... instaure la mort petit à petit, de plus en plus, dans nos cœurs, nos relations, dans nos vies. Dieu dit, viens seulement avec moi, à moi avec ça. Viens à moi, je suis le baume de Galaad. Si on va simplement à Dieu comme ça, on va trouver celui qui est le consolateur, on va trouver celui qui restaure. Et encore plus, lorsque on amène à Dieu ces personnes qui nous ont fait mal, comme avec ici avec Job, et qu'on prie pour eux, et je prends ici les paroles de Jésus même dans son sermon sur la montagne, qui a dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. On a prié ce matin pour les gouvernements. C'est une bonne façon de répondre. On peut être choqué, puis tout ça, mais c'est quoi la meilleure façon, c'est de prier pour eux, parce que savez-vous quoi, ça change notre disposition envers eux. C'est des gens qui ont besoin de la grâce de Dieu, tout comme on a eu besoin avant qu'on soit sauvé. Et ça change vraiment toute la disposition. Et Dieu, c'est dans sa bonté. C'est dans sa bonté qui nous permet que nous soyons blessés. Ah oui? Dieu qui permet ça. Est-ce que Dieu était bon envers Job et qui a permis qu'il perde sa famille, ses biens, puis même sa santé? Est-ce que Dieu avait arrêté d'être bon envers Job? Non. Dans sa bonté, Dieu faisait quelque chose de beaucoup plus grand que juste ce que Job pouvait voir ou comprendre. Dieu voulait lui apprendre à lui faire confiance, à goûter sa grâce, à voir comment Dieu est suffisant et comment Dieu, c'est lui dont on a besoin. Que même si je perds tout, si j'ai Dieu, j'ai absolument tout ce dont j'ai besoin. C'est ça que Dieu voulait enseigner à son serviteur bien-aimé, qui lui-même a dit, hey, c'est un serviteur unique. Dieu s'est vanté de lui. C'est quand même quelque chose. Et mes amis, pour expérimenter sa grâce de cette manière-là, c'est pas plus compliqué. faut juste aller à lui. Juste aller à lui, dans la prière. Et se décharger de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Quand on va à Dieu pour trouver sa vie, sa restauration, on se rend compte qu'on trouve tout ce dont on a besoin, non seulement pour nous, mais pour les choses qu'on peut avoir entre nous. Là-dessus, j'attire votre attention sur Colossiens chapitre 3, verset 13. Ça dit « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » La mesure, la source, le barème, le but du pardon, de la restauration spirituelle, c'est Jésus-Christ lui-même. Si vous dites « Ah, je ne peux pas pardonner, ça a trop été dur. » Pensez, ça dit « De même que Christ vous a pardonné. » On ne pourra jamais pardonner autant que Christ nous a pardonné. Et c'est ça la mesure. D'ailleurs, c'est exactement ce que Jésus enseignait, vous rappelez, avec cette parabole d'une personne qui avait une dette impayable. OK, les montants là qui sont en jeu dans cette parabole que Jésus donne, c'est une dette d'une vie. OK, c'est une dette incroyable qu'il devait. Puis là, il a demandé miséricorde, il est allé auprès de son maître, puis il l'a complètement absous de toute cette dette. Et ce même homme qui venait d'être pardonné, qu'est-ce qu'il fait en revenant? Il voit quelqu'un qui doit une dette, tu sais, importante, mais vraiment pas comparable. On pourrait dire que, tu sais, quelques jours de travail, peut-être au maximum peut-être une semaine de travail. Puis il prend à l'égorger jusqu'à temps qu'il ait donné le dernier centime. La leçon que Jésus enseigne là-dessus, c'est exactement ça. Comme vous avez été pardonné en Jésus-Christ, de même, pardonnez-vous les uns les autres. La comparaison, on ne peut même pas comparer. Il y en a un qui est infiniment grand, et l'autre qui est beaucoup plus petit. Maintenant, pensez à ça. C'est impensable de prier en esprit et en vérité, devant le Dieu qui connaît tout, le Dieu vivant, qui sonde les cœurs. C'est impossible de prier de cette manière-là en restant amer dans notre cœur envers quelqu'un qui nous a offensés. Pensez-y. Dieu ne sonde-t-il pas les cœurs? Dieu ne voit-il pas ces choses? Parce que c'est une contradiction même au triomphe de la vie. Si nous sommes de Christ, qu'on a goûté comment le Seigneur est bon, qu'on a été pardonné de tous nos péchés, que nous avons sa vie, comment pouvons-nous laisser la mort s'introduire même là où la vie de Dieu elle est? Je veux dire, là, quand je me présente devant Dieu, je me présente devant le Dieu vivant avec rien à cacher, comment je peux laisser cette mort qui me gruge de haine, d'endurcissement envers mon frère, ma soeur, envers quelqu'un que Dieu a mis sur mon chemin? C'est la mort. Et Dieu, dans sa bonté, permet ces choses parce qu'il ne veut pas qu'on reste dans la mort. La mort, l'idée fondamentale de mort, c'est séparation. Quand avec quelqu'un, on n'est pas capable d'y parler dans le blanc des yeux et se regarder, il y a de la mort qui est là. Quand il faut qu'on fake, ça c'est du bon québécois, là. Quand il faut qu'on fasse semblant, quand il faut qu'on prétende, ou quand on fait une espèce de pacte tacite qu'on va juste s'endurer la face, mais qu'il n'y a pas de réelle communion. Mes amis, on passe à côté de Dieu lui-même. C'est pas juste que, on passe à côté de la vie de Dieu, on passe à côté du Dieu qui fait des choses extraordinaires dans les relations, mais il faut aller à lui. Jésus, ça nous dit dans Galates, notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. La volonté de Dieu, c'est pas qu'on soit pris dans les liens du péché, de l'amertume qui nous retiennent comme ça dans des relations avec les autres. Non, c'est que la vie de Christ puisse couler à flot librement dans nos vies, à travers nos vies. Et la mesure de ça, mes amis, de ce pardon-là, c'est Christ lui-même. Donc, pensez pas que vous avez déjà assez donné. Ça va jamais arriver. Christ a tout donné. Nous, loin de là. Et Christ est la vie même, la réalité incarnée du pardon. Quand on pense au pardon, Christ en est la manifestation. Quand on regarde la croix, pensez à ça, là. contempler la croix pour un instant. Là. Puis en plus, la Bible nous dit que Christ est mort hors du camp. C'est un endroit où est-ce que les carcasses étaient brûlées, puis le combustible, c'était des excréments et compagnie. C'est un endroit très honteux. Et ça nous dit que Christ a souffert de même hors du camp. Christ, on le voit à la croix, qui prend la honte de notre péché, qui prend toute la laideur de ce que nous, on a fait contre lui, puis contre les autres. C'est lui qui le prend sur lui. C'est lui qui, avec toute la honte du péché, puis la séparation que ça l'amène, a pris ça sur lui-même. C'est ça le pardon que Christ nous présente. Mes amis, quand on contemple ça, quand on l'apprécie, c'est quoi après de pardonner quelqu'un pour une offense? Je veux dire, c'est pas grand-chose. Et en passant, un des meilleurs messages que j'ai entendu sur le fils prodigue, vous l'écouterez, je pense que je l'ai déjà recommandé, je pense qu'en espagnol, tu m'as dit qu'il avait été traduit, c'est M. MacArthur qui explique comment tellement bien dans cette culture de d'honneur, comment toute l'idée de ce que Jésus communique avec le fils prodigue, qui est tellement honteux pour un juif, il va avec des porcs, puis il déshonore son père en dilapidant l'héritage. C'est toutes des choses extrêmement honteuses. Puis le père qui, lui, accepte ça, puis je veux dire, pour eux autres, c'est voyons donc, le père, il aurait dû envoyer son fils pour être tué, là, tu sais, mais non, il accepte ça. Puis ensuite, son père, qui est un homme riche et tout ça, qui va, il court vers son fils encore là, puis là, il l'embrasse. Mes amis, c'est toute l'image de Dieu qui prend sur lui la honte de notre péché, de notre égarement, de nous qui s'en va dans la souillure du monde. C'est ça la croix. C'est ça l'amour de Dieu, mes amis. Qu'on s'inonde de cette vision-là, que Dieu nous en convainque, parce que, mes amis, lorsque on est saisi par cette vérité, ça fait toute la différence. On vit à la lumière de la croix. Et j'aimerais vous dire, ces choses-là, ça commence dans la prière. Le Saint-Esprit saisit nos cœurs quand on est seul avec lui. Les anciens appelaient ça the prayer closet, ou la chambre de la prière. Parole, prière, notre intimité avec Dieu. Dieu va nous ramener des choses, il va nous mettre des personnes à cœur, il va nous ramener des choses. Savez-vous quoi? Il ne nous ramène pas ça pour dire tu fais donc ben dur, t'es donc misérable, t'es donc endurci. Non, il nous amène pour qu'on les voit à la lumière de la croix. Qu'on voit que ces choses-là, Christ les a portées. Puis que ça ne nous appartient plus, puis qu'on doit maintenant vivre à la lumière de ceux qui sont pardonnés, puis tout ça. Puis à cause de ça, évidemment qu'on pardonne. C'est ça que Dieu faisait avec Job. Il l'amenait, lui qui avait tellement souffert, avec les mêmes personnes qui l'avaient piqué au plus profond de son être. Il dit, viens à moi avec ça. Viens à moi, c'est là qu'est la vie, c'est là qu'est le triomphe de la vie, c'est la fin de la mort, parce que la mort aurait pu gruger petit à petit le cœur de Job. Savez-vous quoi? Il y aurait eu la restauration physique dans sa vie, mais il aurait été lamentable. Parce qu'on a beau avoir tout le physique, on a beau avoir tout ce que le monde peut offrir, si on n'a pas la vie de Dieu, puis on ne l'a pas en abondance, on est les plus misérables des hommes. Demandons-nous pas pourquoi le monde est tout à l'envers. C'est parce que le monde veut la vie physique, veut le meilleur que ce monde peut offrir, mais ils ne veulent pas celui qui est la vie, celui en qui est la vie, le prince de la vie. Ils n'en veulent pas. Ça explique aussi pourquoi nos églises sont prises par un fléau de mort. De mort. Pourquoi? Parce que on peut se contenter d'avoir la forme, l'apparence de la piété. Mais si on n'a pas celui qui en fait la force, si on n'est pas en relation avec celui qui en fait la force, on n'a rien. On passe à côté de l'essentiel. Dieu n'est pas impressionné par ce qu'on fait, puis ce qu'on ne fait pas, puis comment qu'on le fait. La seule personne qui impressionne Dieu, c'est Jésus-Christ. Et c'est la clé, c'est juste de vivre à sa lumière, de le laisser vivre dans nos vies. C'est ça, la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est Christ. Il est la vie chrétienne lui-même. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Dieu nous rappelle avec tout ça que l'apparence, en l'absence du triomphe de la vie, en l'absence de la vie elle-même, c'est destructeur. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que c'est la définition même de la mort. C'est-à-dire l'apparence puis tout ça. Si je suis séparé du prince de la vie, si je suis séparé de ceux que Dieu a mis autour de moi, je vais pas avoir tout le speak and span qu'on appelle chrétien. Si je n'ai pas ça, j'ai rien. On parlait de l'amour tantôt. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mes amis, quand on a la vie de Christ qui vit comme ça librement autour de nous, la première chose qu'on voit, c'est l'amour. Vous savez quoi? L'amour! Je vais vous
faire une petite confession là, ce matin. Moi, quand je pense à l'amour, là, je pense à une affaire comme un matin. Mais c'est le fun d'aimer un matin. Parce que c'est facile. Je suis content de vous voir. On peut se faire des calls, puis on s'encourage dans le Seigneur. Puis c'est vrai, c'est l'amour. Mais c'est vrai que l'amour, c'est bien plus que ça. L'amour, c'est d'aimer ceux qui sont détestables. L'amour, c'est quand on n'a pas le goût d'aimer, que là, on parle vraiment d'amour. Parce que l'amour de Dieu, Dieu prouve son amour envers nous. Comment? Quand? Lorsqu'on est encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Ça, c'est le test de l'amour.
Il y a juste l'amour de Dieu, sa vie, qui fait le pont. C'est divin. L'origine n'est pas humaine, elle est divine. Beaucoup d'entre nous, on a été pris dans ce que j'appelle le piège de Romains 7. Vous savez, dans Romains 7, vous comptez le nombre de fois, là, je ne l'ai pas compté parce que c'est pas vraiment pertinent, mais Paul il dit « j'ai », ok, le pronom personnel. « Je veux faire ci, ça ne marche pas. Je veux pas faire ça, ok, je ». Il n'y a pas une fois que ça dit « le Saint-Esprit ». C'est pour ça que ça ne marche pas dans Romains 7. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. C'est tout Paul qui essaye lui-même, par lui-même, essayer, voué à l'échec. Même avec la bonne loi de Dieu parfaite. Mais j'aime comment ça finit. Parce qu'à la fin, là, bon, c'est un constat d'échec, OK? Puis Paul était quelqu'un qui aimait Dieu parce qu'il dit, « Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je trouve en moi une autre loi. » Comme la loi de la gravité, là. Il y a une loi d'un bord, puis l'autre loi qui contrecarre. Quand je veux faire le bien, au même moment, le mal est attaché à moi. Et ça, ce n'est que l'Esprit de Dieu, ce n'est que sa vie qui peut m'en libérer. C'est ça l'idée de la mort. C'est que je veux faire le bien, puis au même moment, la séparation est là. À ce moment-là, ça prend l'Esprit de vie. Puis c'est là qu'on est introduit dans Romains au chapitre 8. C'est dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'Esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché puis de la mort. Ah! C'est la fin de la séparation. C'est ça le triomphe de la vie. C'est Dieu, le Saint-Esprit, que Jésus a envoyé, qui habite dans ses enfants, qui est la loi supérieure, qui est celui qui, même qui est la fin de la mort dans nos vies. Et mes amis, si on ne connaît pas ça, on va voir ce que certains théologiens appellent la théologie de la lutte, struggle theology. Ah, j'essaye plus fort, échec, deux pas en avant, trois pas en arrière. On se donne un flagelle un petit peu à coup de bible parce que là, on trouve qu'on n'a pas assez fort, puis on va à l'église, puis on se fait, let's go, on s'encourage, puis on lutte, on tombe, on se relève. Qui ici qui a goûté ça? Moi, j'ai essayé tellement fort, je me suis pété le nez, pas à peu près, pour moi, j'ai encore un nez rouge. Le petit pasteur au nez rouge. Mais c'est parce qu'on passe à côté de celui qui est la vie. La vie chrétienne, c'est pas quelque chose à faire, à pas faire. On manque l'essentiel. Et donc, si on essaye, même très sincèrement, ou même peut-être voire désespérément, de vivre la vie chrétienne sans Jésus-Christ, on passe à côté. Et je n'ai parlé déjà la semaine dernière, le problème, c'est où est mon attention? Qu'est-ce que je recherche? C'est quoi mon but dans la vie? Le but de la vie chrétienne, c'est Christ lui-même. C'est le connaître lui et la puissance de sa résurrection. C'est ça que Paul dit. Paul était consumé par une chose. Même David dans l'Ancien Testament, lui qui attendait Christ, il dit « J'ai une chose que je désire et que je demande à l'Éternel. » C'est quoi? C'est sa présence. C'est d'être dans sa présence. Il parle du temple et tout ça, puis on sait que c'est un saint de l'Ancien Testament. Le Messie n'était pas encore venu. Oh, mais c'était dans son cœur, ça brûlait. C'est l'Esprit de Dieu qui le dirigeait vers Christ. Mes amis, il y a juste quelque chose de bien important que je vais amener là-dessus. Alors qu'on s'apprête à tirer un dernier trait au message ce matin, qui est simple, qui n'est pas très long. Mais, dans la vie chrétienne, il y a un premier pas qui est très important, c'est quand on se rend compte que Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » On l'a lu tantôt, qui est suffisant pour ces choses. Qu'on se rend compte qu'on n'a pas la puissance pour vivre la vie chrétienne. Savez-vous que c'est juste la moitié de l'équation? C'est très nécessaire, c'est un premier pas que je pense plusieurs ont expérimenté, se sont rendus compte, ouais, cette affaire-là de la vie chrétienne, là, j'ai pas le jus que ça prend pour ça. OK? Vous avez passé l'examen. C'est la première chose qu'il faut se rendre compte. Mais une fois rendu là, la Bible nous dit que Christ est celui qui suscite la foi. OK? Donc, c'est l'auteur de la foi, donc c'est lui qui dans notre cœur fait ces choses, puis quand on se rend compte, ok, j'ai besoin de l'énergie divine, j'ai besoin de celui qui est le commencement de tout, ok, c'est le bon point de départ, mais ça dit aussi qu'il est celui qui finit, ok, qui amène la foi, cette foi-là, à la perfection, donc l'auteur et le finisseur de la foi. Et donc c'est ça la deuxième moitié de l'équation, c'est bon de se rendre compte, ok, je ne suis pas capable de vivre la vie chrétienne sans moi, mais là où est-ce qu'on a erré, pas prendre de l'air, mais c'est là où on s'est égaré, c'est qu'on dit, OK, j'ai vraiment besoin de Dieu pour la vie chrétienne, puis là, je vais demander à Dieu de m'aider à vivre la vie chrétienne, puis ça devrait ressembler à ça. Puis ça, c'est, rappelez-vous, la semaine passée, on a parlé de l'approche hybride. On a compris quelque chose, mais il manque un élément important. La vie chrétienne, c'est pas vivre la vie avec l'aide de Dieu. La vie chrétienne, c'est Christ. La vie chrétienne, c'est la vie de Dieu qui s'exprime à travers nous autres. La vie chrétienne, c'est pas quelque chose. La vie chrétienne, c'est quelqu'un. Et là où est-ce qu'on comprend qu'on n'a pas la puissance, le pas suivant pour finir ce que Dieu a commencé de même, c'est la dépendance, c'est la direction, OK? Dieu, non seulement j'ai pas la puissance, mais j'ai pas l'intelligence, j'ai pas la sagesse, je sais pas comment. OK, ça, c'est la dépendance complète. Celui qui est l'auteur de la foi, c'est lui qui va le finir, mais pour le finir à sa façon, il faut qu'on s'appuie sur lui. Seigneur, je sais pas par où commencer, je sais pas par où... Voyez-vous, c'est là que c'est complet, la dépendance. C'est là que la vie de Christ peut vraiment... Donc, au lieu de dire, OK, la vie chrétienne, ça devrait ressembler à ça. Seigneur, ça ressemble à quoi, la vie chrétienne? Je ne suis pas capable de la vivre, mais... Puis c'est pour ça que le Saint-Esprit est là, il nous dirige dans toute la vérité. Puis lui, il sait à quoi ça ressemble, ta vie chrétienne. Puis ta vie chrétienne, c'est quoi? C'est pas tout comme les petits bonhommes qu'on découpe et on fait broup de même, là. Puis il a raison, tout pareil. Puis sinon, il n'est pas pareil, on le coupe, il n'y a pas rapport, il n'est pas dans notre gang, lui. Non, Dieu fait une mosaïque. Les chrétiens ne sont pas tous pareils. On n'est pas tous rendus à la même place. Puis si on est, comme on a vu la semaine passée, en relation avec Dieu selon la loi, ben là, l'autre qui est pas... On le voit comme un hérétique. Ah, lui, il ne fit pas dans la gang. Il y a quelque chose de pas correct avec cette personne-là. Non, peut-être pas, justement. Peut-être qu'il nous dit qu'il y a un problème. Qu'il passe à côté de celui qui est l'auteur de tout ça. Savez-vous quoi? Dieu m'a ouvert les yeux là-dessus. En tant que bon pharisien que j'ai été pendant si longtemps, Dieu est en train de m'ouvrir les yeux. En amenant des gens qui ne sont pas pareils de ce qu'on est habitué d'avoir d'habitude. Merci d'être là, je suis content que vous soyez là. Les différents. Sentez-vous pas mal, là. Je dis ça, c'est comme un compliment. Parce que Dieu est bien plus grand que juste ce que nous, on peut voir puis concevoir de la vie chrétienne. C'est ça, notre Dieu, justement. Et c'est pour ça que je suis tellement émerveillé de voir notre Dieu quand que tout ça va être fini, là, quand il va avoir vraiment tout fini, là. Puis qu'on va arriver devant le trône, là. Mes amis, là, les différences de ci puis là, ça va être tout fini, là. Parce que celui qui attire toute l'attention, celui qui vaut toute notre adoration, ça va être lui notre centre d'attention. Enfin! Pourquoi qu'on commence pas ici bas sur terre? Pourquoi on regarde à les autres ou à nous, puis ainsi? Pourquoi on ne regarde pas à celui qu'on va regarder pour le reste de l'éternité de toute façon? C'est tragique, mais on peut vivre la vie chrétienne en passant à côté de celui qui est la vie chrétienne. Mais moi, je ne veux pas retourner là. Et mon désir, c'est que Christ ait le plein contrôle de ma vie, qu'il ait la plénitude dans toute ma vie. Je vous cite un verset que je trouve tellement beau, c'est court, mais c'est dans Jean 1,16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Tu sais, on a besoin de la grâce de Dieu puis sa puissance, puis on a encore besoin de sa direction. Dieu, grâce après grâce. Tu sais, comme si on n'a pas assez de grâce, il en donne encore plus. La grâce de Dieu est infinie, elle est tout le temps là. Grâce sur grâce. Et c'est quoi notre rôle simplement? Le juste vivra par sa foi. Habacuc a dit ça dans l'Ancien Testament. Puis trois auteurs du Nouveau Testament l'ont pris. Ça veut dire que c'est important. Vous savez, quand Dieu répète quelque chose dans la Bible, parce qu'il dit, portez attention là-dessus. Et le juste vivra par la foi. C'est comme ça que Dieu opère le triomphe de sa vie. Dieu a déjà triomphé de la vie. La victoire est déjà remportée. On n'a pas besoin d'essayer de la voir, de la remporter. On a juste à vivre à la lumière de cette victoire. Et ça, c'est comment? Par la foi. Christ a déjà vaincu la mort. Il a déjà vaincu tous nos ennemis. Christ a déjà... On est déjà crucifié avec Christ. Puis si maintenant on vit dans la foi au Fils de Dieu, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. C'est ça la vie chrétienne, c'est vivre à la lumière de ce que nous sommes, de ce que Dieu a fait de nous autres. N'est-ce pas merveilleux? On n'a pas besoin de se casser la tête, d'essayer d'inventer quelque chose. Dieu a déjà tout tracé le plan, on a juste à embarquer là-dedans. C'est merveilleux. Je vais terminer avec juste une pensée, vous savez, on va en parler dans Dieu voulant, la semaine prochaine. Pas si l'enlèvement va être entre les deux, sinon... Quand ça sera mon tour, tu sais, vers la fin de l'éternité, peut-être que je vais pouvoir en parler un peu. Je pense que je vais passer après pas mal d'autres, tu sais. Et Noé, le prédicateur de justice, puis ça va être long avant que ça soit mon tour, là. Mais bon. Dieu a tout pourvu dans sa grâce. Hein, Jéhovah Jiré. Savez-vous que Dieu, quand il dit « je suis », là, essentiellement, ce qu'il dit, « t'as un besoin? Il y a quelque chose qui te manque? Je suis la réponse. » T'as pas de paix? Je suis Jéhovah Shalom. Je suis ta paix. T'es dans une guerre, puis tu peux pas vaincre des ennemis tellement plus grands, plus forts que toi. Je suis ta bannière. Je suis ta victoire. C'est ça que Dieu a révélé. Tu sais, quand je parlais tantôt du nom de l'Alliance, c'est ça. C'est le nom de dire « Je suis celui qui est toute la réponse à toi. » Puis il a dit ça à son peuple, parce que c'est pour ceux qui le connaissent, se confient en lui. Nous avons tout en lui, puis le max de tout ça, c'est Jésus-Christ. Je suis votre salut. Amen. Le grand problème du péché, je suis celui qui l'a réglé. Je suis celui qui vous a réconcilié. Et donc, si vous êtes ici ce matin, Dieu a pourvu la loi pour vous convaincre que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Dieu a pourvu la sainte loi de Dieu pour dire qu'il est saint et que tous... tombe court de la gloire de Dieu. Je pense à fall short. J'ai pas le bon mot. C'est quoi en français, donc? Romains 3, 23. Oui. Ah, on est privé, c'est ça, merci. Dieu a pourvu la loi pour nous montrer qu'on peut pas sauver nous-mêmes. Dieu a pourvu la loi pour nous montrer qu'on a besoin de celui qui est la fin de la loi, Jésus-Christ. Écoutez bien, ça dit dans Galates, au chapitre 3, verset 24, ainsi, la loi a été donnée comme un précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. Non seulement Dieu a pourvu la loi pour nous montrer qu'on a besoin d'un sauveur, mais il nous a pourvu la croix pour nous convaincre de la perfection de sa provision, que tout est accompli, on l'a chanté, que Le sacrifice ultime a été fait une fois pour toutes. C'est ce que ça dit dans Hébreux chapitre 10, verset 14. J'aime tellement ce verset-là. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et finalement, Dieu, si vous êtes ici et vous ne le connaissez pas encore, non seulement il a pourvu sa loi pour montrer votre besoin, il a pourvu la croix pour le combler, mais il a pourvu le tombeau vide pour vous convaincre de la réalité de sa vie, de sa présence, et que vous ne pouvez pas le rencontrer maintenant si vous êtes en dehors de cette vie. Et comme il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois, pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Si vous êtes ici, vous êtes encore en dehors de la vie qui est en Jésus-Christ. Allez simplement à lui tel que vous êtes. Il sauve aujourd'hui. La Bible nous dit qu'il est vivant pour sauver ceux qui s'approchent de lui par la foi. Sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui par la foi. Et mes amis ici qui sont des enfants de Dieu, vous avez été lavés dans le sang de l'agneau, vous êtes rachetés par le sang précieux de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Dieu a tout pourvu dans sa grâce. Il nous montre la croix pour nous convaincre de la perfection de son œuvre. Vive à la lumière de cette croix, c'est vive à la lumière que tout est accompli. Je suis accepté, je suis dans le bien-aimé. Dieu a pourvu la croix pour nous montrer que la victoire est pleinement remportée. Dieu a pourvu à la résurrection pour nous montrer le triomphe de la vie, nous montrer que Dieu ne veut pas qu'on essaye de tout faire absolument par nous-mêmes. Non, on a juste à demeurer en lui, en celui qui est notre vie. C'est ça la vie chrétienne. Et Dieu a pourvu à l'Esprit du Dieu vivant, le Saint-Esprit, le Consolateur, pour nous convaincre tous que nous avons tout pleinement en Christ. Le Saint-Esprit qui nous garde les yeux ou nous ramène les yeux sur le fait que nous avons tout pleinement en lui. Le Consolateur, l'Esprit Saint que Dieu le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et ce même Saint-Esprit, c'est lui qui nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Merci Seigneur pour ta parole vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, qui sonde les cœurs, les intentions et les pensées du cœur. Seigneur, tout est à nu devant toi, il n'y a rien de caché. Ça peut être effrayant si on veut se cacher, ça peut être effrayant si on veut les apparences, mais c'est réconfortant quand on sait que tu es bon, que tu as pourvu pour nos péchés, que tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. Seigneur, on termine à tes pieds comme Job. On vient à toi. Seigneur, tu connais les blessures des cœurs de chacun. Tu sais ce qui détruit à petit feu des relations, des vies intérieures. Tu es le baume de Galaad. Tu es celui qui restaure. On vient à toi, Seigneur, tel qu'on est. Oh, et s'il y a quelqu'un ici qui est encore dans les ténèbres, qui n'est pas encore passé de la mort à la vie, on veut intercéder, plaider pour son âme, afin qu'aujourd'hui soit le jour merveilleux de son salut. On prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous lever.